En fait, c'est pas si facile que ça de raconter des histoires à la radio.
Non.
Alors, je vais vous raconter une histoire passionnante.
Excuse ma belle, l'histoire m'appelle.
Eh bien, cette histoire est fausse.
Puis le passé, c'est le passé, je ne veux pas reparler.
Tu parles d'une connerie. Vous savez, l'histoire, elle va changer.
Tu parles d'une histoire.
Bonjour à tous et bisous sur vos crânes. Si je commence à vous parler de croix gammée, d'archéologie, d'ésotérisme et de quête du Graal, il y a 11 chances sur 10 que vous bondissiez de votre chaise en disant « Ah, trop facile, Indiana Jones !» Et vous n'auriez d'ailleurs pas tort, le héros du jour a bel et bien inspiré Spielberg, mais Otto Rahn a cette petite particularité d'avoir vraiment existé. Il naît en 1904 en Allemagne, près de Wiesbaden, et dès son plus jeune âge, le petit Otto se prend de passion pour la légende du roi Arthur en général, et pour le Graal en particulier, cette coupe qui aurait recueilli le sang du Christ sur la croix. Plus tard, quand Otto s'engage dans des études d'histoire et d'archéologie, le Graal est devenu plus qu'un rêve d'enfant, il croit en son existence réelle et se dit qu'il a une authentique chance de mettre la main dessus. Après tout, un archéologue comme Heinrich Schliemann a bel et bien réussi à dégager les ruines de Troie en étudiant l'Iliade, pourquoi pas lui ? Son Iliade à lui, c'est un vieux texte de 1205, Parsifal, un long poème épique consacré à la quête du Graal, et le grand argument d'Otto le voici. Au terme de sa quête, Parsifal, Perceval, parvient à atteindre le Graal et guérit le roi mourant au mont Salva, le mont du salut. Rahn en conclut séance tenante que ce mont du salut n'est autre que le mont Ségur du château de Montségur, la montagne sûre. Pourquoi et comment Otto a-t-il sérieusement pu se mettre à croire qu'un texte du XIIIe siècle allait lui servir de GPS en 1931 ? Ça nous échappera toujours un peu, mais Otto échafaude, Otto s'emballe, et Otto finit par se convaincre que l'histoire du Graal se confond avec celle des cathares, ces hérétiques éliminés depuis le milieu du XIIIe siècle. En 1931, à 27 ans, voilà Otto qui fonce dans le sud-ouest de la France, ce qui en fait un Otto mobile. Sur place, il rencontre une tripotée d'érudits locaux et passe surtout ses journées à farfouiller la vieille forteresse de Montségur, dont les derniers habitants finirent brûlés en 1244. En fait de Graal, tout ce qu'il trouve, c'est une série de salles souterraines et évidemment, il y voit une chapelle mystique. Il ne lui en faut pas plus et Otto publie en 1933 un ouvrage enthousiaste, « Croisade contre le Graal », dans lequel il présente sa quête. Cet obscur bouquin fait un remarquable bide, mais parmi les rares lecteurs d'Otto figure un homme de premier plan, Heinrich Himmler, ex-éleveur de poulets et accessoirement maître des SS. Un des hommes les plus puissants de l'appareil nazi. En 1933, Hitler est à peine arrivé au pouvoir qu'Otto Rahn est convoqué à Berlin par Himmler, qui lui explique que ses recherches l'intéressent. Dieu sait qu'on a beaucoup survendu le goût supposé du nazisme pour l'ésotérisme, mais si on cherche un dignitaire nazi qui fait dans l'occulte, c'est bien Himmler. Et voilà comment en deux temps, trois mouvements, un archéologue autoproclamé de 29 ans se retrouve enrôlé dans la SS au grade de Sturmbannführer, quelque chose comme commandant. Comme Rahn n'avait pas de sympathie particulière pour les nazis, et dans la mesure où il était ouvertement homosexuel, il y a là une forme d'ironie féroce. Bombardé officier, le voilà qui se retrouve au beau milieu d'un groupe qui commence seulement à les pourchasser sans pitié. Quand il croise un ami qui lui demande ce qu'il est en train de foutre avec l'uniforme noir des SS sur le dos, il répond presque navré « il faut bien manger ». Ceci dit, pour manger, il faut avancer dans sa mission, trouver ce foutu Graal. Et comme mécontenté Himmler ne se classe pas dans la rubrique des bonnes idées, Otto peut certes compter sur l'argent, sur le soutien logistique de l'ASS, mais disons que ça va de pair avec une légère pression. Un peu plus illuminé chaque jour, Otto Rahn se balade un peu partout en Europe pendant 4 ans. Il y mène des recherches toujours plus foireuses, dont la revue des SS, Das Schwarze Korps, publie régulièrement des comptes rendus enthousiastes. Il en tire, en 1937, un second livre, finement intitulé « Le tribunal de Lucifer », une parfaite guignolade, Himmler adore, et en fait tirer 5000 exemplaires de luxe remis aux officiers SS. Mais dans les mois qui suivent, Rahn commence à tomber en disgrâce. Son manque de résultats concrets, sa fréquentation de certains cercles anti-nazis et son homosexualité finissent par irriter Himmler, qu'il punit en l'expédiant 3 mois comme simple garde à Dachau. Ce qu'il y voit finit par le convaincre qu'il a mis les pieds dans une belle saloperie. Il écrit à un ami « Il est impossible, pour un homme comme moi, tolérant et libéral, de vivre dans ce qui est devenu mon pays natal. Début 1939, Rahn demande à démissionner de l'ASS, ce qui est à peu près aussi lucide que de croire qu'on peut démissionner de la mafia. La suite est floue, mais si Himmler accepte le départ de Zahn, son sort est probablement acté. A-t-il devancé le pire? Lui a-t-on laissé le choix de sa mort? Dur à dire, mais le soir du 13 mars 1939, Zahn est parti gravir le flanc d'un sommet du Tyrol, couvert de neige et de glace. À un moment de son ascension, il s'est arrêté pour s'asseoir à flanc de montagne, face au sommet alpin. On a retrouvé son corps gelé le lendemain. Comme disait Terry Pratchett, l'histoire a toujours quelques tours dans son sac. Après tout, elle est là depuis longtemps.
Telle est ma quête, suivre l'étoile. Peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance.
Nova.